Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
L'empoisonnement, comment le savoir et comment le soigne-t-on? Nous en parlons dans ce nouveau numéro du magazine Okapi Service avec notre invité, le professeur Josaphat Ndelo Dipandu. Il est toxicologue. Voilà, professeur Josaphat Ndelo Dipandu, bonjour.
Bonjour.
Voilà, professeur, avec vous, on va parler de l'empoisonnement, comment le savoir et comment le soigne-t-on. Il est fréquent d'entendre des gens affirmer que telle ou telle personne a été victime d'un empoisonnement et cela peut survenir lors d'une fête, au cours d'un repas ou bien autour d'un pot avec des amis et même parfois des membres de sa famille. Mais comment savoir exactement qu'une personne a été empoisonnée et comment se fait la prise en charge médicale? Alors, professeur, si on y va pour l'empoisonnement. Bien souvent, on entend dire qu'une personne a été empoisonnée. Mais des affirmations comme ça, professeur, donc, qu'est-ce que vous pouvez, dès le départ, dire par rapport à des telles affirmations sur l'empoisonnement?
Eh bien, merci beaucoup, mon frère. En fait, comme vous le dites si bien, c'est des affirmations qui, au départ, sont tout à fait gratuites.
Oui.
C'est-à-dire, on ne peut absolument pas parler d'empoisonnement tant qu'il n'y a pas eu une confirmation. Et puis, je voudrais vous dire qu'il faut faire la différence entre empoisonnement et intoxication. L'intoxication, c'est quoi? C'est en fait lorsque on a un produit toxique dans l'organisme et ce produit provoque des effets dans l'organisme, on dit qu'il y a une intoxication. Par exemple, lorsque l'enfant consomme du pétrole, c'est une intoxication. L'empoisonnement, c'est un terme qui est utilisé uniquement lorsque quelqu'un met un produit toxique dans votre aliment, dans votre boisson, enfin, dans le but de vous nuire. Dans notre pays, on pense que tout est empoisonnement, alors qu'il y a des intoxications qui proviennent qui arrivent de manière accidentelle. Je répète, un enfant qui consomme du pétrole, c'est une intoxication. Donc, il n'y a pas d'empoisonnement tant qu'il n'y a pas une confirmation par les services autorisés.
Donc, c'est très important que cela soit confirmé par de services compétents. Alors, professeur, est-ce qu'il y a déjà des signes qui peuvent laisser penser à un empoisonnement?
Alors, disons l'intoxication en général. Eh bien, il faut savoir que l'intoxication en général dépend. Les signes d'une intoxication ou d'un empoisonnement, ça dépend d'un toxique à l'autre. Lorsque vous avez affaire à du pétrole, ou est-ce que vous avez affaire, par exemple, à des benzodiazépines, au valium, les symptômes ne seront pas les mêmes. Mais nous pouvons dire qu'en général, en cas d'empoisonnement ou, disons, d'intoxication, il y a certains symptômes qui peuvent être les mêmes. Exemple, c'est des réactions au niveau du tube digestif, des vomissements, des nausées, de la diarrhée, fièvre, il y a des cas où il n'y a pas de fièvre. Ça, ce sont les symptômes communs à beaucoup d'intoxications, à beaucoup d'empoisonnements. Mais ils peuvent ne pas se retrouver dans certaines autres intoxications.
Ah, donc, ah oui, professeur, vous êtes bien en ligne, on est en train de vous suivre. C'est-à-dire que le signe peut dépendre d'un poison
à un autre,
tout à fait.
Mais donc, il y a certains signes communs que je viens d'énumérer.
Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut absolument, comme vous l'avez dit en début de l'émission, il faut vraiment un diagnostic d'un spécialiste qui confirme, voilà, c'est des signes vraiment de tel ou tel autre poison. Allô, professeur Ndelo. Nous avons quelques soucis techniques avec le professeur Josaphat Ndelo Dipanzo. On espère qu'on va le retrouver tout à l'heure. C'est bien lui notre invité pour parler de l'empoisonnement, comment le savoir et comment le soigne-t-on, vous savez, et dans les quartiers où vous habitez ou bien même au sein de votre communauté. Bien souvent, il arrive que une personne soit malade ou une personne décède et puis on attend des gens affirmer que si cette personne serait décédée d'un empoisonnement ou a été empoisonnée avec le professeur Josaphat Ndelo Dipanzo qui est toxicologue. On est en train de voir comment soigne-t-on l'empoisonnement et puis surtout comment le savoir. Et nous rappelons le numéro des contacts si vous êtes vraiment intéressé par ces sujets. Vous avez peut-être des témoignages ou vous voulez simplement savoir plus, vous voulez poser des questions. Nous rappelons le numéro des contacts, c'est les 081-890-6394. On me fait signe que le professeur est de nouveau en ligne. Professeur Ndelo Dipanzo, vous êtes de nouveau en ligne. Professeur, on est en train de vous parler avec vous des signes qui oui. peuvent traduire un empoisonnement. Et vous disiez déjà que cela dépend d'un poison à un autre. Il faut absolument qu'il y ait les diagnostics d'un spécialiste pour dire qu'il s'agit véritablement d'un poison. Pour ce qui est la conduite à tenir, lorsqu'on s'est dit peut-être, tiens, j'ai été victime d'un empoisonnement. Lorsqu'on a un réflexe comme celui-là, qui est la conduite à tenir?
Lorsque un problème d'empoisonnement ou d'intoxication arrive dans la communauté, comme je vous ai dit, bien que ça dépende d'un poison à l'autre, il y a certains signes qui peuvent être communs, par exemple des vomissements, de la diarrhée, des nausées, ainsi de suite. Oui. Et vous voyez que la personne est vraiment dans un état vraiment de souffrance. Alors je dois dire ceci, c'est que la population doit savoir qu'une intoxication, c'est un cas d'urgence. C'est urgent. Pourquoi? On ne sait pas la nature du toxique, du poison. Deuxièmement, on ne sait pas quelle est la quantité. Troisièmement, on ne connaît pas dans la population quels sont les symptômes, ou pardon, quelle est la gravité de ces produits. Qu'est-ce que ces produits peuvent amener et quel est le délai entre l'administration et la mort. Donc, c'est un cas d'urgence. Il faut donc essayer de tout faire pour aller le plus rapidement possible au centre de santé ou dans un hôpital. Ça, c'est la première chose que je dois dire.
Oui.
Prenons un autre cas d'intoxication qui arrive souvent dans la population, c'est quand il y a une envenimation. Vous êtes piqué par un serpent, c'est la même chose. Allô?
Oui, pour ça vous êtes bien en ligne, ça marche 5 sur 5, allez-y, oui.
Ok, donc, je donne un autre exemple, quand il y a une envenimation, on est mordu par un serpent. Eh bien, c'est la même chose, c'est une intoxication, mais par un serpent. Par un animal vivant, eh bien, il faut foncer à l'hôpital. Mais pour amener quelqu'un à l'hôpital, il faut le sécuriser. C'est-à-dire, il ne faut pas l'amener de n'importe quelle manière. On le met dans le dos, on court avec lui. Non, non, non. Il faut le mettre, par exemple, derrière une voiture, couché comme ça, pour essayer de faire que le poison ne puisse pas trop progresser dans l'organisme. Maintenant, quels sont les premiers soins qu'on pourrait faire dans la population au cas où vraiment on ne peut aller à l'hôpital? On doit d'abord regarder est-ce que le malade est conscient ou est-ce qu'il n'est pas conscient. Supposons que quelqu'un prend le Valium, il est en train de dormir. Eh bien, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le prendre, le laisser coucher derrière une voiture. Il est seul derrière la voiture, pas le mettre. Sinon, on le fait coucher sur la banquette arrière et on l'amène à l'hôpital. Il est interdit pour une personne qui est inconsciente de tenter, par exemple, des vomissements provoqués ou de tenter quoi que ce soit. Mais si jamais une personne n'est pas dans un état, il est conscient. Alors, on peut tenter de faire des vomissements provoqués. C'est-à-dire, soit on introduit son doigt, pas le doigt de quelqu'un d'autre, mais son propre doigt dans la bouche pour qu'il puisse vomir. Ou bien alors, lorsque on voit que le poison, il est en train de souffrir très fort, on peut donner des petites quantités d'eau pour diluer le poison pendant qu'on l'amène à l'hôpital. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire.
Oui.
La première chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas donner du lait. Deuxièmement, il ne faut pas donner de l'huile de palme. Je vais vous dire pourquoi. Vous ne connaissez pas la nature du poison.
Oui.
La plupart de poisons, il y a beaucoup de poisons qui sont des poisons lipophiles, c'est-à-dire qui sont solubles dans l'huile.
Oui.
Si vous donnez et l'huile rouge, de l'huile de palme, ou bien vous donnez le lait, eh bien ces deux produits vont faciliter l'entrée, le passage du poison, du tube digestif vers le sang. C'est vraiment, vraiment une contre-indication. Or, généralement, dans la population, c'est ce qu'on fait.
Et ce qui n'est pas bien, professeur, on va poursuivre avec vous, professeur, parce que nous avons déjà des auditeurs en ligne. Nous avons Elodie qui nous appelle de Guémena, dans la province de l'Équateur, et qui commet Bozossé, Bozossé, voilà, merci Tati, qui nous appelle de Bukavu, dans le sud, qui vous voulez également intervenir sur ce sujet, sur l'empoisonnement, comment le savoir et quels sont, et comment le soigne-t-on. Nous, vous pouvez appeler au 081-890-6394.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Elodie, vous nous appelez de Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour Elodie.
Bonjour Marcel.
On vous écoute Elodie.
Oui, bonjour au prof Ndelo. Oui, j'ai deux questions. La première question est celle-ci. Je vais un peu connaître, quand il y a des enfants qui fassent des intoxications, je vais prendre un exemple. Ici, chez nous, on fabrique des savons indigènes, ou soit qu'un enfant prend les fruits, il mange. On a l'habitude de donner le miel pour soit l'huile de palme. Bon, j'ai écouté le professeur dire que ne pas faire cette pratique, ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il peut dire au cas où un enfant prend quelque chose de comme ça, de toxique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le miel aussi, c'est mauvais.
Et
la deuxième question, oui. C'est... Je l'ai suivi il y a quelques temps ici à la radio au Capi dans Grand Témoin avec Céline Fouquet. Il parlait d'un poison qui est un homme qui voulait les carrois. Il dit que ça peut se prévenir avant que quand quelqu'un là-bas peut prévenir, lui aussi détecte que ça il soigne. Maintenant, je voulais poser la question des carrois. Quand quelqu'un veut se rendre de l'autre côté, parce que moi, mon époux est de ce côté-là, c'était un militaire. Moi, j'essaie de partir avec les enfants. Bientôt dans les vacances, je vais là-bas. Comment je peux me prévenir, moi et les enfants, de ça? Parce que lui, il disait que ce n'est pas les poisons, c'est un microbe qui, de ce côté-là, qui se développe. Et quelqu'un peut prévenir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Merci. Voilà. Merci Elodie. Vous avez appelé de Guémena dans la province de l'Équateur. On va retrouver Kikomi Bozossé qui nous appelle de Bukavu dans le sud Kivu. Kikomi, bonjour.
Oui, bonjour Marcel. Bonjour à l'invité. Je salue tout le monde. Moi, c'est Kikomi Bozossé, l'étudiant de l'université Simon Kimbangu de Bukavu, ISK en sigle. Je voudrais poser à notre invité la première question de savoir quelle est l'attitude qu'un thérapeute face à un malade qui peut adopter en tant qu'un professeur, quelle est l'attitude qu'il peut adopter? Et la deuxième question est de savoir, vous savez que avec la thérapie comportementale, vous savez que est-ce que moi, quand il y a un enfant qui est atteint ou bien qui a été empoisonné par exemple à la maison, et quels sont les signes selon le thérapeute? Quels sont les signes qu'un thérapeute il doit savoir qu'un enfant est contaminé. Quels sont les signes manifestables? Et je voudrais un peu dire au professeur, à notre invité, pour dire que, et il vient de nous dire que ceci, on ne peut pas donner un enfant ou bien à un individu ou à une personne qui est contaminée, qui est empoisonnée, l'huile de palme. Mais selon la tradition culturelle, nous, on nous dit souvent, quand il y a quelqu'un qui est empoisonné, il faut, la première des choses, il faut lui donner d'abord l'huile de palme. C'est parce que c'est cette huile-là qui neutralise un peu la force de ce poison-là. Mais les professeurs, ils viennent de nous dire, on ne peut pas donner ces huiles de palme. Vous savez que c'est une contradiction. Moi, J'ai un exemple pareil. Mon enfant, il a été empoisonné il y a à peine une semaine. Mais j'ai manifesté, il y a des signes manifestables que j'ai constaté que l'enfant est empoisonné. L'enfant, il s'est relaxé d'abord les muscles. Mais aussi l'enfant, il refusait à manger.
Vous l'avez... Kikoumi, excusez-moi de vous poser cette question. Lorsque vous avez vous-même remarqué ces signes, vous ne l'avez pas amené dans un centre médical?
Oh, non. Quand j'ai remarqué ces signes-là, je suis obligé d'aller à l'hôpital. Mais oui. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on n'a rien vu comme signe. Mais moi, en tant que psychologue de formation, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai demandé d'abord aux voisins, j'ai dit... Vous savez que j'ai un cas pareil à la maison aujourd'hui. Il y a un enfant qui est comme ça. En tant que les experts, vous savez qu'il y a des thérapeutes, même si les gens qui n'ont jamais étudié, sont eux qui sont plus thérapeutes. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils m'ont dit, ils me disaient que, vous savez que l'enfant là, il est empoisonné. On a fait un test. On a fait l'été. L'enfant a voulu, on me disait que de faire l'été, et que je donne à cet enfant-là, c'était là. Et quand j'ai donné l'enfant à l'été là, l'enfant a commencé à vomir. C'est pas là que j'ai constaté que l'enfant est empoisonné. Mais quelle est la première des choses qui m'a été comment conseillé? Les gens là du quartier me disaient que non. La première des choses, il faut prendre d'abord l'huile de palme et de donner à cet enfant-là. C'est ce que j'ai fait. Mais malheureusement, le professeur, il vient de nier ça. Je ne sais pas, c'est une contradiction. Bon,
voilà, Kikoumi, on a compris votre préoccupation. Hein, le professeur va revenir par rapport à ça. Donc, merci d'avoir appelé depuis Bukavu dans le sud qui va revenir ici à Kinshasa. Et on va retrouver Maître Gaston. Bonjour, Maître Gaston.
Merci, à vous aussi.
On vous écoute, Maître Gaston.
Bon, disons que je constate que vous abordez ce sujet ici sur le plan... juridique, non, disons médical, mais c'est un sujet vraiment à caractère juridique. Donc, mais aussi, l'aspect que vous parlez, voir les professeurs, vous parlez sur un autre comportement que nous, en droit, nous appelons l'administration des substances nuisibles. Mais l'empoisonnement, lorsque nous parlons de l'empoisonnement, là, on suppose les résultats. Ça signifie qu'on a administré des produits qui ont donné la mort à une personne. Donc, on ne peut que constater l'empoisonnement après le décès. Donc, si, les docteurs ou les médecins pouvaient nous dire, les professeurs, quels sont les signes qui peuvent montrer que cette personne venait de décéder par suite d'un empoisonnement. Mais nous constatons aussi, je voulais aussi poser une autre question.
Oui.
Est-ce que les professeurs pensent aussi que l'administration des substances nuisibles, donc vous administrez des substances nuisible à une personne, donc, l'administration des substances nuisibles peut être confondue par rapport à leur diagnostic avec le sida, parce que dans la plupart des cas, lorsqu'on parle spécialement du sida, mais à mon avis, les gens se nuisent, donc ils administrent eux-mêmes par les produits que nous consommons, qui nuisent, et puis soit une personne qui peut vous administrer ces produits-là qui vous nuit gravement et peut vous conduire à la mort.
Maître Gaston,
l'empoisonnement et l'administration des substances nuisibles.
Vous voulez bien donner un exemple de l'une de ces substances nuisibles?
Oui, l'administration des substances nuisibles, si dans le cas des infractions, par exemple, une personne vous donne des médicaments périmés, dans l'intention de vous nuire grave, vous nuire petit à petit, vous conduire petit à petit à la mort. Mais il y a d'autres substances aussi que moi, j'ai, par exemple, la drogue, je ne sais pas si la drogue peut conduire, mais il y a des substances là que vous connaissez que lorsqu'on vous administre ça, c'est pour vous nuire, hein, nuire votre santé, mais non les résultats, parce que l'empoisonnement suppose les résultats, c'est qu'on constate que la personne est morte. Après, on voit si on l'avait empoisonné. Il y en a plusieurs, je pense que le professeur est mieux placé pour nous les.
Voilà, merci à Maître Gaston, vous avez appelé de Kinshasa et merci également de nous faire passer cela à l'esprit. Hein. Nous verrons bien dans le jour prochain comment faire un sujet sur l'aspect juridique, hein, que dit la loi congolaise en cas d'empoisonnement. Merci Maître Gaston. On revient à vous, professeur Josaphat Panzo Dindelo. C'est un sujet qui intéresse beaucoup d'auditeurs en tout cas. Et on va commencer avec Elodie. Qui avait posé d'abord cette question de savoir on parle également du miel, Lorsque on pense bien qu'une personne a été empoisonnée, on conseille de prendre du miel. Il a parlé de ces produits avec lesquels on fabrique du savon et d'hygiène. Il peut arriver qu'un enfant puisse avaler ces produits. Et le reste, il a été souvent conseillé de prendre du miel, mais également de l'huile des palmes. Mais voilà, vous avez dit que l'huile des palmes est déconseillée, également du lait. Vous allez revenir par rapport à ça. Et puis, Elodie a également dit, qui est vraiment une fidèle auditrice de Radio Capi, qui vous a suivi dans Grand Témoin, où vous parlez oui. de ce poison. Vous savez que là, oui. du côté du nord du pays, nord du est, côté oui. du nord-est, on parle d'un produit Caroua, j'espère que j'ai oui. bien prononcé. Vous avez dit que ce n'était oui. pas un poison, c'est plutôt simplement un microbe qui est à la base de tout cela. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme précision à Elodie, qui est appelée de Guéménada, à pose de l'Équateur?
Ok. D'abord, je reviens vraiment. Je sais qu'il y a des choses qu'on fait dans la population. Ce n'est pas parce que quelque chose est fait par tout le monde que cette chose est bonne ou qu'elle est correcte. Ce n'est pas parce que tout le monde a toujours fait comme ça, a toujours donné le lait ou l'huile des palmes, que c'est ce qu'il faut faire. La science, c'est la science. Et croyez-moi, c'est parce que, en fait, lorsque vous osez faire cela, vous allez voir qu'il y a des cas qui deviennent beaucoup plus dangereux et on risque de perdre l'enfant. Maintenant, le miel. Le miel, normalement aussi, c'est un antitoxique dans l'organisme. Lorsque vous prenez le miel combat ce qu'on appelle les radicaux libres, des poisons que notre organisme fabrique lui-même. Mais normalement, le miel n'est pas un antipoison lorsque vous avez quelqu'un vous donne, par exemple, du Valium et vous prenez le miel. Ça ne va rien vous faire. Maintenant, dans le cas du Caroua, eh bien, le miel agit. Je l'avais dit la fois dernière. Le miel agit très fortement dans le cas du Caroua et je sais personnellement pourquoi il agit. Donc ça, c'est un autre cas. Mais j'ai dit que Caroua, ce n'est pas un empoisonnement. Il y a du poison, mais un poison qui est créé, qui est libéré par une bactérie. Et le miel va agir au niveau de là où le poison est produit. C'est un autre cas. Mais dans tous les autres cas, le miel n'agira pas. Le miel est un antitoxique, un anti-radicaux libre dans notre organisme. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais est-ce qu'il y a des mesures pour pouvoir se prémunir contre le Caroua? Eh bien, ce sont des mesures d'hygiène. C'est une bactérie. Donc, c'est comme quand on veut se prémunir contre la tuberculose, eh bien, il faut se laver régulièrement les mains. Il ne faut pas manger sans s'être lavé les mains. Lorsqu'on revient à la maison, on se lave les mains toujours avec du savon. C'est la principale précaution qu'on puisse prendre. Ce sont des mesures d'hygiène. Vraiment, j'ai l'occasion de le dire et je le crie très haut. Ce sont des mesures d'hygiène.
Ah voilà, pour ça, alors qu'est-ce que vous dites à Kikumi qui appelait de Bukavu dans le sud Kivu, lui il a parlé de son enfant, dont lui pour lui l'enfant manifestait des signes d'un empoisonnement et puis il est parti dans un centre médical où on n'a rien trouvé, où il s'est permis de lui-même de donner à l'enfant du thé, l'enfant a vomi et il a conclu que c'est pour lui l'enfant c'était le poison puisqu'il a donné du thé, l'enfant a vomi. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette pratique?
Mais c'est une pratique. Ce n'est pas parce qu'il y a une pratique qui est réalisée dans la communauté que cette pratique, elle est nécessairement vraie. Et encore aussi, est-ce que la personne, parce que vous savez, il y a beaucoup de pratiques qui se font autour du Caroua. Vous voyez?
Oui.
Parce que dans notre pays, on croit que l'intoxication, ce n'est que le Caroua. Et je vous l'ai dit la dernière, et j'aurai l'occasion de le confirmer d'ici peu, parce qu'il y a des gens même qui ont dit, je m'excuse, hein, qui ont dit, j'ai vu dans la dans le site de Radio Okapi, pourquoi ils ne donnent pas le germe, l'identité du germe, est-ce qu'ils ne font pas comme a fait l'Uruma dans le temps? Non. Je prépare une grande conférence, tout sera révélé. Et nous comprendrons qu'il y a certaines choses qui se font dans la communauté et qui ne sont pas correctes. lui, il voit qu'un enfant ne se sent pas bien, il donne du thé et la personne, l'enfant vomit, donc il conclut, c'est un poison. Et il va à l'hôpital, on voit que ce n'est pas le poison, peut-être que c'était autre chose. Donc, il ne faut pas nécessairement penser que quand quelqu'un fait ceci ou cela, le poison, parce qu'on le dit dans la communauté, c'est pas vrai. Le problème que nous avons, c'est que en matière d'intoxication, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés. Voilà le problème. Je peux vous dire que même pour le médecin, il n'y a pas longtemps que le cours de toxicologie clinique a commencé à être donné. C'est moi qui l'enseigne. Donc, je sais de quoi je parle.
Voilà.
C'est moi qui ai commencé à l'enseigner dans notre pays. C'est comme ça que maintenant, petit à petit, les...
Voilà, les professeurs ne plus en ligne. J'espère qu'on va le retrouver. Les professeurs, il y a vraiment des pratiques à déconseiller. Hein. Donc, vous avez suivi les professeurs qui a dit il y a certaines choses qui sont habituellement utilisées au sein de la communauté. Mais c'est, il faut faire très attention par rapport à tout ça. Donc, nous espérons avoir les professeurs pour conclure sur les autres questions que nos auditeurs ont posées là, notamment Maître Gaston qui a cherché à savoir. Est-ce que l'administration de substances nuisibles peuvent également être assimilées à de l'empoisonnement? Il cherche également à savoir quels sont les signes de l'empoisonnement. Et nous avons également d'autres auditeurs en ligne. Nous avons Dorson qui nous appelle de Goma dans le Nord Kivu, et Mori qui est à Kamina dans les Katanga. On va leur accorder la parole dans l'espoir de retrouver le professeur pour répondre à leurs préoccupations concrètes par rapport à ces sujets sur l'empoisonnement. Comment le savoir et comment le soigne-t-on? Dorson, vous êtes à Goma dans le Nord Kivu. Bonjour. Bonjour Dorson. Je pense bien qu'il a un problème avec Dorson. On va passer à Mouri qui est à Kamina dans le Katanga. Mouri, bonjour. Ouais. Mouri, vous êtes en ligne. Bonjour. Mouri n'est pas en ligne. On espère en tout cas que tout ça va s'arranger. Nous parlons donc de l'empoisonnement. Et comment le savoir et comment le soigne-t-on? Nous avons suivi ce qu'a dit les professeurs. C'est très important lorsqu'on a comme l'impression qu'une personne est en train de vomir ou c'est plein de maux de ventre. Il faut vite l'amener dans un centre médical le plus proche plutôt que de chercher à le soigner vous-même dans la maison. Vous avez également suivi le professeur a dit qu'il est souvent de pratique de donner de l'huile de palme. Il faut éviter cela également du lait, de l'eau. Ce n'est pas déconseillé. Le professeur est à nouveau en ligne. Ça nous fait énormément plaisir. Professeur, vous êtes de nouveau en ligne. Alors là, on revient à la question de Maître Gaston qui avait cherché à savoir quels sont les signes qui peuvent laisser traduire un empoisonnement. Et il a également posé la question de savoir est-ce que l'administration de substances nuisibles peut être assimilée à un empoisonnement.
L'administration, l'empoisonnement, c'est justement cela. Lorsque quelqu'un administre à quelqu'un d'autre une substance nuisible, c'est un empoisonnement. Contrairement à ce que Maître dit, peu importe le résultat, nous parlons soit d'une tentative d'empoisonnement, mais la tentative d'empoisonnement, c'est un empoisonnement. Cela veut dire quoi? Que même si la personne n'est pas morte, la personne qui a administré la substance nocive doit être poursuivie. Maintenant, lorsque la personne est morte, on va faire des prélèvements. Maître le sait bien. On doit faire des prélèvements des échantillons chez la personne qui est morte. On va prendre des échantillons du foie, du rein, du sang, des urines, du contenu stomacal. On envoie au laboratoire. Moi, on m'envoie régulièrement les échantillons. Et je vais faire maintenant les analyses pour déterminer quel est le poison qui se trouve dans les échantillons. Voilà ce qu'on fait. Et à ce moment-là, on va répondre au tribunal. Donc, on va envoyer le rapport d'analyse. Voilà ce qu'on fait.
Et pour ce qui est des signes, il a posé également la question de savoir quels sont les signes qui permettent de reconnaître un empoisonnement avant...
Mais c'est ce que j'ai dit.
Oui.
Les signes, tous les poisons n'ont pas les mêmes signes, je répète.
Oui.
Supposons que quelqu'un donne à quelqu'un, on administre une substance nuisible, prenons que cette substance soit le Valium, eh bien la personne va s'endormir, elle sera dans le coma. Tandis que si on administre, par exemple, le paracétamol, qui est aussi un produit qui peut être nuisible, eh bien, il n'y aura pas de coma, la personne ne va pas dormir. Donc, les signes peuvent être différents, totalement différents. C'est pour cela que quand il y a en justice, on amène une affaire en justice que quelqu'un a été empoisonné ou il y a eu une tentative d'empoisonnement, on va emmener les échantillons au laboratoire, donc au service de toxicologie. Quand les échantillons arrivent chez moi, je vais faire l'analyse. Il n'appartient pas à l'avocat ou au magistrat de dire « Ah oui, c'est un empoisonnement parce que voilà, la personne a fait ceci, a fait cela. » Non, maître le sait bien. Il faut prouver ça. Et alors, les analystes vont montrer si oui ou non on est en présence, et est-ce qu'il y a présence d'une substance nuisible dans les échantillons de la personne qui est morte ou de la personne qui a subi une tentative d'empoisonnement.
Voilà, pour ça, on retient donc qu'en cas d'empoisonnement, il faut vite acheminer la personne dans un centre médical. Et puis, puisqu'on ne sait pas le type de poison, il faut éviter de donner de l'huile de palme et également du lait. Voilà.
Oui.
Merci à professeur Josaphat Ndelo Dipanzu, vous êtes toxicologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette question sur l'empoisonnement, comment le savoir et comment le soigner. Merci et on vous retrouve très prochainement.
Ok, au revoir.
Au revoir.